Merci pour ces témoignages, merci pour les participations ce matin. Alors c'est rigolo parce que juste avant que Pierre invite à participer, c'était plutôt calme ce matin. Il y a des cultes comme ça où c'est plus calme que d'autres. Mais on est une église qui se veut charismatique. Et donc je voudrais vous encourager et nous encourager ce matin à continuer de pratiquer les dons. Merci pour ce magnifique témoignage suite à ce rêve. Et on a besoin de ça, comme tu l'as si bien dit. On a besoin que Dieu nous parle, et ça va mieux, ça va mieux. Ça nous permet de traverser des situations que l'on ne peut pas contrôler par nous-mêmes. Et je crois que Cathy et Jean-Daniel étaient dans cette situation où les liaisons radio étaient complètement coupées et il n'y avait qu'une parole du Seigneur qui puisse venir et donner la paix. Je suis au contrôle et c'est moi qui pilote. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et merci pour le soin que tu es en train de faire par rapport à cette île là-bas. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la suite du message que j'avais commencé avant les vacances de Noël. Et du coup, c'est sur la dimension des dons, et plus spécifiquement la dimension des dons prophétiques, mais je pense que les principes vont pouvoir s'appliquer de manière plus large. Et mon but ce matin, donc, c'est pas de faire une étude académique de la vie spirituelle et de l'exercice des dons, mais c'est plus de nous encourager encore et encore de manière plus pratique, à toujours laisser plus de place dans notre vie d'église ou dans notre vie de tous les jours à l'expression des dons spirituels. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler plus spécifiquement des dons liés à la prophétie, parce que c'est ceux que je pratique le plus, mais les principes peuvent être extrapolés. La dernière fois, on a vu rapidement la nécessité d'un cadre biblique à la pratique des dons spirituels. Et nous nous étions arrêtés aussi sur le désir de Paul que tous prophétisent afin de toucher le cœur des non-croyants. Je crois qu'il y avait, j'ai remis le verset. Ah, ils ne suivent pas là-bas. Si vous pouvez mettre... Paul dit, mais si tous prophétisent, alors il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et on était resté sur cette note de waouh, quel boulot pour la présidence si une assemblée rentre dans ce que Paul dit, tous. Waouh. En préparant cet enseignement aussi sur le prophétique, j'ai réalisé que souvent dans nos milieux charismatiques, quand nous invitons quelqu'un avec un don prophétique, c'est pour que lui fasse le job. Souvent c'est ça. Et parfois, on assiste quand même à un one-man show. Alors c'est compréhensible. Pourquoi ? Parce que c'est tellement bon et ça fait tellement du bien de recevoir et de recevoir des paroles venant du Seigneur. Mais Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, lui, il a le souci que ce soit le corps tout entier qui exerce les dons. Il veut susciter dans toutes les communautés locales, dans toutes les églises, un ardent désir de marcher avec les dons spirituels. Et je dirais que de manière générale, notre façon d'aborder les dons, elle est liée au fait que... Excusez-moi. C'est mieux le papier parfois, parce que quand on appuie sur un écran, il y a plein de choses qui apparaissent. De manière générale, les lettres du Nouveau Testament sont écrites pour les communautés, les églises locales, dans leur ensemble. Et est-ce que parfois, on ne va pas, dans un coin de notre tête, réserver certains écrits pour des leaders ou pour des spécialistes ? Quand Paul s'adresse aux anciens ou aux diacres, il va le préciser. Partout ailleurs, c'est à la communauté entière qu'il va s'adresser. Quand Paul écrit aux Corinthiens, il écrit à la communauté de Corinthe et il commence en leur disant vous avez tous les dons. 1 Corinthiens 1, verset 5. Car en lui, vous, la communauté, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous, à la communauté, manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais bien qu'un apôtre nous écrive et nous dise « Il ne vous manque aucun don ». Waouh ! Ensuite, dans le reste de l'épître, on voit que Paul encourage à ne pas céder aux passions de la chair, mais à vivre d'une manière digne du Seigneur. Et là encore, c'est à la communauté ensemble qu'il s'adresse. Et quand viennent les chapitres qu'on va aborder sur la pratique des dons, c'est donc encore à la communauté qu'il s'adresse. Et en 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit, non, reviens en arrière, « Aspirez aux dons spirituels et en particulier à celui de prophétie. » Donc tout le monde doit se sentir concerné par cet appel de Paul. Et c'est ce que je nous propose ce matin, que ce ne soit pas l'affaire juste des responsables ou de certains de l'Église, mais que cette aspiration, ce désir ardent de vivre et pratiquer les dons vienne de toute la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moyen ? Si ? J'aimerais qu'ensemble, et parce que je crois que Paul insiste sur ce « ensemble », c'est ensemble qu'on va réussir à faire qu'il y ait un brasier ardent qui brûle au sein de notre communauté. Ce n'est pas juste en regardant « ah ouais, un tel, ah ben c'était bien, ce matin on a eu l'apport de Sylvain ». Non, Sylvain est venu, ah ben David il a dit ah ben moi aussi je vais y aller, Aline elle est venue, elle a dit ah ben moi aussi j'ai reçu quelque chose, ensuite on a eu le témoignage de Cathy, et c'est comme ça qu'on allume un brasier dans une communauté, d'accord ? C'est pas en restant et en attendant que les autres fassent à ma place, mais c'est nous-mêmes en venant et en disant ok ce matin je viens avec mon charbon ardent sur la tête de qui je vais le poser. Amen. Alors, la dernière fois, on a parlé du fameux cadre biblique. Et c'est ce qu'on va voir ce matin d'une manière rapide et un peu large. Et je voudrais qu'on garde un peu de temps à la fin pour avoir du temps dans la prière par rapport à ce sujet. C'est quoi ces expériences spirituelles que Dieu dévoile dans sa parole ? Il y a pas de... Ah, il y a de l'eau. Super. L'autre jour, quelqu'un est venu me poser une question par rapport aux dons spirituels. Et la question, c'était est-ce qu'on peut, on autorise les cris, par exemple, dans l'assemblée ? Bon, c'est intéressant cette question-là. Et notamment pendant les temps un peu spécifiques, vous savez, où on sent la présence de Dieu d'une manière particulière. Est-ce qu'on accepte alors ça ou pas ? Est-ce que c'est dans le cadre biblique ou est-ce que c'est hors du cadre biblique ? Mais j'allais dire, il n'y a pas de réponse toute faite et je pense que tout dépend de l'effet produit. Qu'est-ce que ça va produire au sein de l'Assemblée ? En Actes chapitre 2, on ne va pas le lire, mais nous voyons qu'un groupe de personnes alors qu'il y a eu une effusion d'esprit très très intense, eh bien, ils se sont mis à se moquer et à regarder les gens et à dire « mais... qu'est-ce qu'ils ont bu ? Ils sont complètement sous. » Et pour qu'ils arrivent à cette conclusion, c'est bien que c'était bizarre quand même ce que les autres étaient en train de vivre et ce qu'ils étaient en train de voir. Et je crois qu'ils ne s'attendaient pas simplement à ce que Dieu agisse de cette manière-là. Et donc il faut être prudent et je crois qu'il faut être ouvert à la manière dont Dieu peut agir au milieu de nous, même si on a bien sûr un cadre biblique. Dans un temps d'intercession fort, je crois que Dieu peut utiliser nos émotions pour agir. J'ai une amie, c'était pendant un temps de délivrance très fort, j'allais dire virulent. C'était sur une enfant de 8 ans, si je me rappelle bien, donc pas très costaud. Et l'enfant était malheureusement démonisé. Et elle faisait des bonds au-dessus de la tête, comme ça, en étant allongée. Si bien qu'il a fallu 6 adultes pour pouvoir la plaquer au sol. Et alors que les adultes étaient en train de prier, ben, il y avait la manifestation, elle ne voulait pas s'arrêter. Et une amie, une jeune femme très douce, elle s'est mise à pousser un rugissement. Waouh ! Ça a scotché et glacé tout le monde. Et immédiatement, la manifestation a cessé. On peut passer la slide. Miché, grand intercesseur, aussi. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Et parfois, on a l'impression qu'on le fait dans son petit coin, comme ça, on n'entend rien. Et là, non. Miché, il dit, je marcherai déchaussé et nu. Oula, c'est pas très évangélique, ça. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Waouh. Est-ce qu'on est prêt à cela dans la communauté? Mais c'est juste pour dire, oui, il y a des choses bizarres parfois. Du moins inhabituel dans la façon dont Dieu peut nous parler et agir au milieu de nous. Et ne soyons pas trop surpris de la manière dont Dieu peut agir, si fort que nous allons nous opposer à ce que Dieu est peut-être en train de faire. Job 33, verset 14, il nous est dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Voilà. À chaque fois que tu voudras mettre Dieu dans cette boîte-là, bien, il va choisir celle d'à côté. Tu vas dire « Ah, maintenant Dieu, il agit comme celle d'à côté. » Eh bien, il va changer, il va prendre encore celle d'à côté. Et la suite du verset, elle est super intéressante. « Et l'on n'y prend pas garde. » Waouh. Et ça peut nous interpeller et nous dire, mince, combien de fois Dieu me parle et moi, j'y vois rien ou j'entends rien. 1 Pierre 4, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Bon, Pierre ne dit pas autre chose que ce que Paul dit, le corps, chacun au service des autres. Et Pierre va utiliser un mot intéressant dans ce verset-là, c'est les diverses grâces de Dieu. Et le mot divers qui est utilisé ici, c'est le mot multicolore. C'est beau, hein ? C'est le mot multicolore, poikilos. Et donc, la grâce de Dieu, elle n'est pas uniforme. Elle n'est pas toujours toute bleue, ou toute verte, ou toute rose, ou toute jaune. Non, elle est multicolore. Elle se manifeste de différentes manières. Dieu choisit de révéler de façon diverses et variées, de la même façon qu'il choisit des personnes diverses et variées à qui il va donner une révélation. Donc, arrêtons les stéréotypes, j'ai envie de dire, et laissons place à Dieu qui agit en fonction de qui il va utiliser et de la manière dont il a envie d'utiliser cette personne. Et ce matin, j'aimerais qu'on balaye rapidement certains exemples bibliques avec des témoignages peut-être personnels à des moments donnés sur 4 manières dont Dieu peut nous parler. Il peut nous parler au travers de messages prophétiques, au travers d'actes prophétiques, au travers d'expériences prophétiques et même au travers de rencontres. Alors, les messages prophétiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'allais dire la base, mais qui peut être très, très, très fort, c'est ce qu'on peut appeler les impressions. J'ai l'impression que Dieu est en train de me parler. Paul, en acte 14, au verset 9, il voit la foi chez l'homme impotent à Lystre. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la foi. Est-ce qu'il a vu une auréole qui scintillait ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il avait un sentiment, une impression de dire « Ah, probablement forte, mais lui, il a la foi. » Il s'agissait d'une perception, d'un sentiment sur lequel lui aussi a agi par la foi. Et personnellement, ça m'arrive, je me retrouve à ressentir des choses que certaines personnes peuvent penser ou ressentir. Et parfois, ça me touche même dans mes émotions, et mes émotions peuvent en être chamboulées. Pierre pratique ça de cette manière, où il va ressentir la douleur, par exemple, d'une personne sur tel ou tel membre. Et je crois que ça fait partie de l'impression, je ressens, j'ai l'impression que... Et quand cela nous arrive, et je pense que ça peut arriver à n'importe qui dans l'assemblée, il est intéressant d'aller vers là où les personnes concernées et d'y aller avec des questionnements. Écoute, est-ce que tu aurais pas mal au bras droit ? Est-ce que dans ta vie, tu n'es pas en train d'avoir une peur là, qui est en train de monter ? Etc., etc. Et cela permet, je crois, de tâter le terrain et d'aller plus loin en fonction des réponses. N'oublions pas, on s'accorde toujours le droit à l'erreur et la parole que l'on va prononcer, eh bien, elle n'est jamais l'Écriture, même si on cite l'Écriture, mais elle est quand même puissante pour porter quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. Donc, les impressions. Ensuite, il peut y avoir aussi ce qu'on peut appeler les pensées soudaines. Ce sont des pensées distinctes de ce à quoi je suis en train de penser, de mes raisonnements, et qui viennent là comme de nulle part. En général, elles nous font nous arrêter et hop, nous centrer immédiatement sur Dieu. En général, quand ça m'arrive, moi, il y a une espèce d'émotion vive qui me saisit. Et ça me fait comme des frissons sur tout le corps. Et je me dis, ah, là, il faut s'arrêter. Le Seigneur est en train de te parler. Il y a quelque chose à te dire. Et alors, je sais que c'est un moment qu'il faut que je passe particulier dans la prière. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle la conviction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est une sorte de certitude que quelque chose est vrai, même si personne ne nous l'a dit. Cela peut conduire à connaître parfois les secrets des cœurs ou des pensées les uns des autres. Et il y a un fort sentiment de confiance quand ça se passe, une sorte de certitude qui s'installe dans notre cœur. Jésus le faisait souvent, et on le voit dans les évangiles, quand il est rapporté, Jésus connaissait leurs pensées. Waouh ! Il avait cette conviction où il savait ce que les gens pensaient. Un autre exemple aussi, peut-être quand il va voir la femme samaritaine en Jean 4, ou quand il parle des pensées de Simon le pharisien en Luc 7. Dans ce cas de figure précis, je pense qu'il faut savoir tout le temps rester doux, aller à l'inverse de ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le fait d'être convaincu, ça pourrait nous pousser à être trop poussifs, justement, et au final, à faire du mal plutôt que faire du bien par notre attitude. Nous pouvons avoir une conviction, mais pour la personne pour laquelle on prie, eh bien, ça n'est peut-être pas le moment, ça n'est peut-être pas le bon timing pour parler de sa vie, étaler sa vie ou pour prier pour elle. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Eh bien, parlons-en avec quelqu'un d'autre et voyons comment on peut avancer avec patience et douceur, toujours. quand ça m'arrive, j'essaye tout le temps de rester dans mes petits souliers et d'adapter le ton de ma voix. Et j'allais dire, quand on est vraiment convaincu, prenons plutôt un ton interrogatif et allons-y avec douceur. Une autre manifestation, donc on a vu les impressions, on a vu la conviction, les pensées soudaines qui viennent interrompre ce que je suis en train de penser. Et puis il y a une autre manière dont Dieu se manifeste, mais que je n'ai jamais vécue, c'est bien sûr la voix audible de Dieu. Et il y a des exemples bibliques, donc on est obligé d'en parler. Paul sur la route de Damas, acte 9, verset 7. Les autres ne pouvaient pas l'entendre, mais lui l'a entendu. L'appel de Samuel dans 1 Samuel 3, versets 1 à 14, qui ressemblait à la voix d'Élie, mais qui n'était entendu que par Élisée, mais pas par Élie. La voix du Père quand Jésus parle lors de son baptême, là par contre, plusieurs l'ont entendu, ou alors lors de la transfiguration. C'était une espèce de grondement comme venant des nuages. Et il y a probablement d'autres exemples dans la parole de Dieu où Dieu a parlé de manière audible. Waouh, quelle grâce, quelle grâce. La plupart du temps, c'était dans des moments particuliers de l'histoire, mais voilà, restons open, comme on dit, restons ouverts. La plupart du temps, la manière dont Dieu me parle, c'est par la voix interne, la voix qui est à l'intérieur. C'est celle que l'on entend à l'intérieur de nous, mais qu'on n'entend pas avec nos oreilles. Et quand ça arrive, eh bien, j'ai le sentiment que je peux entendre une conversation à côté et en même temps être en conversation à l'intérieur de moi. La voix peut paraître très nette et je sais à ce moment-là que ce ne sont pas mes pensées qui parlent ou ma propre voix interne qui parle. Personnellement, j'ai eu trois visitations particulières de la part du Seigneur Jésus et à chaque fois, c'est cette voix-là qu'il a utilisée, la voix interne. J'en parlerai de certaines choses après. Donc ça, c'était les messages prophétiques. Déjà, on a de quoi faire, je crois. Si à chaque fois qu'on se rencontre, on vient avec ça pour bénir, apporter mon charbon sur la personne qui est à côté de moi ou pas à côté de moi, mais qui est dans l'assemblée, eh bien, je crois que va se naître déjà un brasier intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a ensuite ce qu'on peut appeler les actes prophétiques. Alors, ce sont des actes qui sont faits par une personne qui prophétise, un prophète, et qui, pour bien sûr, communiquer la parole de Dieu. Là encore, il y a un certain nombre d'exemples dans la Bible, je ne vais bien sûr pas tous les citer. J'en ai pris un, parce que vous allez forcément tomber dessus, parce que tout le monde lit toute sa Bible, bien sûr. Et celui-là, je le déconseille, voire je l'interdis. C'est dans Osée, il faut oser, où le prophète épouse une prostituée pour révéler l'adultère d'Israël. Donc je ne crois pas que ce soit un exemple à suivre, mais c'était un acte prophétique. Dans Jérémie, on voit qu'il reçoit l'instruction d'acheter un champ et qu'il devrait saisir l'opportunité et mettre l'acte dans un vase de terre comme symbole de ce que Dieu fait envers la nation, rachetant des maisons et des champs lorsque le siège sera terminé. Donc il peut vraiment y avoir des choses concrètes que Dieu nous appelle à faire. Agabus qui va venir et qui va lier les mains et les pieds de Paul comme une démonstration de ce qu'il va arriver. On retrouve à Jérusalem. On retrouve ce passage dans Acte 21. Il y en a plein d'autres, bien sûr. De nos jours, comment ça peut se revêtir, ce genre d'acte prophétique? Eh bien, ça peut se revêtir de toutes les manières que ce soit. Dans l'Assemblée, on a la chance d'avoir des personnes qui prennent les bannières, par exemple, et qui vont venir les secouer. Je pense aussi dans cette démarche d'acte prophétique. Ça peut se manifester en s'agenouillant devant le Seigneur pour montrer et témoigner de sa souveraineté et de sa royauté. Ça peut être en fait tout et n'importe quoi. Quand on va intercéder pour notre pays, on peut mettre une carte par terre, marcher dessus et dire « Seigneur, on te réclame cette nation pour l'Évangile, etc., etc., etc. » Il faut être conscient que ce sont des choses qui sont pratiquées dans la Bible et par le peuple de Dieu. Et donc, soyons ouverts et attentifs. Et peut-être que le Seigneur va nous faire ce genre de choses. Je sais qu'à une époque, il y avait de la peinture qui était faite dans l'Assemblée, il y avait des danses qui étaient réalisées. J'aimerais bien qu'on retrouve tout ça. C'était chouette. Et surtout, ça témoigne de l'aspect multicolore de la grâce de Dieu. Alors, les peintres, à vos pinceaux. Les danseurs, à vos chaussons. Non, je plaisante un peu, mais c'est sérieux, c'est sérieux. J'ai vraiment un ardent désir, comme dirait Paul, de voir la grâce multicolore de Dieu au milieu de nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, dans la parole, les expériences prophétiques. Il y a pas mal d'expériences dans la Bible, et l'important, quand on va lire ou quand on va assister à une expérience prophétique, c'est de ne pas perdre du regard qu'il y a un message derrière. D'accord ? Quand il y a une expérience prophétique forte, souvent, on a tendance à être attiré par l'expérience elle-même. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu est en train de dire alors que l'expérience est vécue. Alors, il y a l'expérience d'être en extase. Ça va. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas choqués. C'est le même mot qui a donné ecstasy après. On voit ça, par exemple, en Acte 10 avec Pierre ou en 2 Corinthiens 12 avec l'apôtre Paul. Il s'agit d'être plongé dans un état qui n'est pas ordinaire, où nos sens naturels sont perturbés. Paul dira, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps. Dans quel état il devait être? Ça vous est déjà arrivé de dire, je ne sais pas si je suis dans mon corps ou pas dans mon corps? Pierre, il nous a dit aussi qu'il est tombé en extasis. Waouh! Et après, il a eu la vision. La personne se retrouve généralement impliquée dans l'expérience. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement en dehors, en train d'être spectatrice, mais c'est comme si elle faisait partie de l'expérience vécue. En général, à ce moment-là, la notion de temps peut disparaître et on ne sait pas si c'est écoulé 5 minutes ou 5 heures. Je pense que c'est un peu un état qui nous amène hors du monde. Il peut y avoir aussi des visions, les yeux ouverts. En Acte 16, on a Paul qui voit un homme qui lui demande de venir en Macédoine. C'était la nuit, mais il n'est pas précisé que Paul dormait, et ce n'est pas précisé que c'était dans un rêve. Dans ces visions, le surnaturel vient se superposer au naturel, pour que nous puissions voir quelque chose, en fait, avec nos yeux, mais qui est du domaine spirituel, invisible. Par exemple, on entend de temps en temps les prophètes qui peuvent dire « Ah, je vois un ange qui se tient là ou là. » Et je crois que cela peut littéralement se produire et que le prophète peut littéralement en voir un. Donc ça, c'est les yeux ouverts. Et il y a aussi la vision, les yeux fermés. Donc là, c'est quand on a une espèce de film qui se déroule, vous savez, dans notre tête. Et la plupart du temps, on a cette expression, on dit « je peux voir telle ou telle chose se passer, etc. » On regarde avec nos yeux internes et il y a une espèce de film qui se déroule à l'intérieur de notre tête. Et ça aussi, ce sont des expériences. Et une des expériences que je veux remettre à l'honneur, c'est merci Cathy de le témoigner, c'est bien depuis qu'on en parle, on en entend de plus en plus, ce sont les rêves. Les rêves font aussi partie. Et je veux vraiment encourager l'Assemblée à rêver. Je ne sais pas si ça suppose qu'on a un sommeil léger, Joël, mais... rêvons avec le Seigneur. On voit plein d'exemples bibliques de cela. En Genèse, on voit Joseph qui fait deux rêves. On voit que Dieu apparaît à Abimélec en Genèse 20 dans un rêve pour le prévenir qu'il va faire une bêtise avec Sarah. On a Job au chapitre 33 qui explique comment Dieu se sert des rêves pour prévenir les gens de leur destinée éternelle. Et on entend pas mal dans le monde musulman que les personnes rêvent du Seigneur Jésus et ont une vraie rencontre avec lui et se convertissent à la suite de ça. Et les rêves et les visions sont quelque chose de qui... Il y a une mention spéciale dans la Bible pour les rêves et les visions. Et on le voit dans le livre de Joël au chapitre 2. Et les rêves et les visions, c'est quelque chose de spécial pour notre temps à nous, pour le temps de la Nouvelle Alliance, pour le temps des derniers jours. Donc c'est pour ça que encourageons-nous, prions les uns avec les autres pour que nous ayons encore et encore des rêves avec le Seigneur et des visions. Ça va ? C'est pas mal quand même hein, comme cadre biblique. Et c'est pas fini. Il y a aussi des expériences hors du corps. Waouh ! Toujours dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure de Paul, il raconte avoir été enlevé jusqu'au troisième ciel. Waouh ! Il est parti jusqu'au troisième ciel. Ézéchiel, il a été enlevé entre terre et ciel et transporté dans des visions divines à Jérusalem. Dans le texte, il nous est dit qu'il a été attrapé par les cheveux et il a pu voir les péchés secrets des anciens dans le temple. Ézéchiel 8, 1 à 4. Donc il y a aussi des transportations hors du corps, c'est très bizarre. Ça, ce sont les expériences prophétiques et on va finir avec les rencontres prophétiques. Ce que je veux faire ce matin, c'est juste pousser. Et vous avez vu, ça ne s'arrête pas, où on pousse dans nos têtes le rationalisme peut-être qui veut... que Dieu, il agisse comme ça, et non. Et je crois que même ce matin, je n'aurais pas fini de pousser les murs de nos pensées. Et donc, on peut avoir des rencontres avec le Seigneur, et je terminerai là-dessus. Bien sûr, il y a des exemples bibliques, Moïse, avec le buisson ardent, en Exode 3, le commandant de l'armée de l'Éternel, qui vient parler à Josué, on pense bien que c'était Jésus, l'homme qui marchait avec les disciples d'Emmaüs, etc. Et personnellement, j'ai eu deux visitations de Dieu, j'allais dire concrètes, je ne sais pas comment le qualifier, spirituelles forcément. La première, c'était après une réunion chez Joël, à Castanet, pour les Nîmois, je m'arrête au feu à Castanet et Astrid, à cette époque-là, elle était enceinte d'Ethan, donc c'est il y a 13 ans. Et elle était au quatrième mois, je crois, de grossesse. Et je m'arrête au feu et je tourne la tête. Et là, j'ai eu ces frissons qui m'ont parcouru tout le corps. Et Jésus était assis à côté de moi. Et alors, il me dit, Astrid a des contractions, mais ne t'inquiète pas, le bébé arrivera à terme. Je ne m'y attendais absolument pas. Bien sûr, ni une ni deux. Bon, j'habitais à Vaquerolles, donc ce n'était pas très loin. J'ai tracé, j'arrive en courant à la maison, je trouve Astrid en pleurs parce qu'elle était pleine de contractions et elle était stressée. Et alors, je peux lui témoigner de ce que le Seigneur m'a dit juste 5 minutes avant dans la voiture. Et bien sûr, la paix est venue immédiatement. Ce qui ne nous a pas empêchés d'aller à l'hôpital pour aller faire un check. Et il a fallu prier pour que Ethan arrive. Je crois qu'il est arrivé 3 jours après terme. La deuxième aussi, c'était quand Astrid était malade, dans la chambre où on a vu là ensemble une visitation du Seigneur Jésus qui s'est assis d'un côté du lit, qui s'est levé et qui s'est assis à côté d'Astrid par la suite. Et ensemble, on a eu cette expérience du Seigneur qui vient vraiment nous visiter. Et c'était très fort et très, très intense. Donc, il peut y avoir des rencontres particulières que l'on peut vivre avec le Seigneur. Elles peuvent être sous forme de vision, sous forme d'impression, mais aussi en face à face, j'allais dire, où le Seigneur est là et tout change. Et quand vous avez ce genre de rencontre, je peux vous dire que ça change votre vie. Et ça, bien sûr, ça m'a marqué et je m'en rappellerai jusqu'à ce que je rejoigne le Seigneur en vrai. Mais on a besoin de ce que le Seigneur fait dans nos vies pour continuer la marche et tenir bon parfois. Il peut y avoir aussi, donc, quand on parle de rencontres, eh bien, des apparitions angéliques et des visitations d'anges. Hébreux 1, 14, on voit que les anges sont envoyés et servent de messagers pour le peuple de Dieu. Et dans la Bible, bien, on en voit à plusieurs endroits. De Rois 6, Élisée, qui voit une armée de chars. L'ange Gabriel qui vient toquer et visiter Marie et lui expliquer ce qui va se passer. Les bergers qui ont la compagnie d'anges qui apparaissent, etc., etc. Donc oui, les anges sont des êtres spirituels et oui, ils peuvent nous visiter et venir nous parler de la part du Seigneur. Il y aurait encore d'autres choses et d'autres moyens avec lesquels le Seigneur parle. Et ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu veut nous parler. Waouh ! Dieu veut nous parler. C'est un Dieu relationnel qui a envie d'être en relation avec chacun de nous. Amen. C'est pour ça que Paul, il est là, et il a envie. Je veux que tous vous prophétisiez. Je veux que tous, en gros, vous soyez en relation avec votre Dieu. Dieu peut nous parler au travers de la nature. Est-ce que vous vous arrêtez parfois et regardez, contemplez? Nombre de fois où Dieu m'a parlé au travers d'un arbre, d'un rayon de soleil ou je ne sais pas. Arrêtons-nous, prenons le temps avec ça. Dieu peut nous parler au travers d'observations de la vie. En Jérémie, on le voit, le prophète regarde un potier là, qui est en train de faire quelque chose et paf, Dieu lui donne une parole. Alors que nous sommes au travail, en train d'exercer nos métiers à l'école, soyons ouvert au fait que Dieu peut nous parler à ces moments-là aussi précis. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut utiliser pour venir nous parler parce qu'il a vraiment cet ardent désir d'être en relation avec chacun de nous. En conclusion, et puis on va prier, comprenons que Dieu est Dieu. Amen. Évitons de le mettre dans une boîte trop vite. Il est surnaturel, il est libre et c'est lui qui nous invite quand il en a envie, à venir le rencontrer de manière surnaturelle, parce qu'il est surnaturel. Il ne peut pas être contrôlé, expliqué. Pas toujours. Parfois, on va recevoir des choses, on ne comprend rien. La dernière fois, Karine a reçu quelque chose, elle n'a pas compris, mais elle l'a donné. Et c'était pile poil le thème du message que j'ai partagé. Mais elle ne le savait pas, mais elle a osé. Osons. Et parfois, on ne comprendra rien à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Les expériences et les rencontres prophétiques viennent d'un royaume différent. Dieu est riche dans sa manière de communiquer avec nous. Ne laissons pas le scepticisme ou le rationalisme nous empêcher de rentrer dans cette dimension spirituelle extraordinaire. Faisons attention de focaliser sur le message et pas sur l'expérience. Si au milieu de nous, quelqu'un tombe et se met à trembler ou à en crier, ce qui est important, ce n'est pas qu'elle tombe, ce n'est pas qu'elle crie. C'est ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'elle est en train de vivre. D'accord ? Rappelons-nous que le message prophétique s'appuie sur la vérité des Écritures. Il n'enlève rien, il n'ajoute rien. Il s'y soumet entièrement. Le cadre biblique est intense et suffisant pour notre vie spirituelle sur terre. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va prier si vous voulez bien.